Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Génération Podcast.
Génération Podcast.
Génération Podcast.
Génération
Podcast.
Génération.
Génération Podcast.
Podcast.
Génération Podcast.
Génération Podcast.
Salut, salut! Vous avez eu l'excellente idée de lancer un épisode de Génération Podcast et je vous en remercie. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de tendre mon micro à Alexis Buisson, correspondant de la Croix aux États-Unis. Alexis se spécialise dans la presse écrite et travaille actuellement sur la biographie en français de la vice-présidente des États-Unis Kamala Harris. Il a aussi été rédac-chef de French Morning, un média que je connais un petit peu, entre 2011 et 2019. Ça, c'est la face connue d'Alexis. Mais Alexis, il fait aussi des podcasts. Je l'avais découvert au cours de la dernière présidentielle américaine, dans le podcast de La Croix, c'est ça l'Amérique, dans lequel il dressait un portrait du pays sous la présidence de Trump et qui s'interrogeait sur son futur. Et cet été, il a remis ça dans un format très différent, avec un angle très différent, dans la saison 2 de C'est ça l'Amérique, dans lequel il nous parle du fleuve Colorado, un fleuve très long et mythique aux États-Unis qui refuse de se laisser mourir. Un podcast tout en itinérance le long du lit de ce mythique cours d'eau et dont on va parler aujourd'hui. Alexis, bienvenue dans Génération Podcast et merci d'avoir accepté mon invitation.
Salut Anne-Fleur, salut à tous.
Pour commencer, j'aimerais bien faire un petit bond en arrière, toi qui es journaliste donc dans la presse écrite, t'écris même des bouquins. Comment est-ce que t'en es venu à rejoindre le monde de l'audio ? Et ma question remonte vraiment très loin en arrière parce que il me semble que t'as été le présentateur de journaux d'actu à la radio pendant tes études, non ?
Ouais, tout à fait. C'est vraiment, en fait, j'ai commencé, j'ai envie de dire, dans l'audio, quoi. Ma première vraie expérience dans le journalisme, je voulais le faire depuis l'enfance. C'est vraiment un métier passion que j'ai depuis l'adolescence même. Et en fait, ma première vraie expérience dans le journalisme, c'était dans une petite radio protestante à Paris. Fréquence protestante, 100.7. Et quand j'étais à l'université, ils cherchaient des étudiants intéressés par le journalisme pour présenter des flash infos.
D'accord.
De 2 minutes en direct. Et donc, moi, j'ai commencé par le faire une fois par semaine. Ça m'a beaucoup plu. J'ai adoré l'équipe aussi. C'était une petite équipe de bénévoles qui faisait vraiment de la radio par passion. Et en fait, ils m'ont fait confiance après pour présenter des formats plus longs, faire des émissions interactives avec les auditeurs, présenter des émissions d'actu
à
l'époque sur l'actualité internationale, etc. Et donc, j'ai vraiment pu m'épanouir en fait, au sein de cette petite radio. Et j'ajoute que je ne faisais pas juste de l'antenne, en fait.
D'accord.
J'ai poussé l'expérience à vraiment faire différents métiers au sein de la radio,
ouais.
Notamment prendre des appels, enfin filtrer les appels d'auditeurs.
Ah oui, d'accord.
Pour les émissions interactives du soir. Voilà, quand j'avais un peu de temps, en gros, j'allais le passer à cette radio. Et j'en suis extrêmement reconnaissant jusqu'à aujourd'hui. C'est vraiment, enfin les quelques années que j'ai passées là-bas, ça reste des souvenirs très très forts.
Ah, trop bien. T'es resté quoi, 3 ans?
Ouais, quelque chose comme 3 ans en fait, parce que j'étais pendant 2 ans sur place en fait à Paris et j'ai fait des émissions pour eux depuis Boston où je suis où j'ai fait une partie de mes études, voilà.
D'accord.
Donc j'ai continué à leur envoyer des sons depuis Boston.
Super intéressant. Du coup, tu as quitté la radio en 2007 lorsque tu es arrivé aux États-Unis, mais c'est finalement seulement 13 ans plus tard, en 2020, que tu te lances dans C'est ça l'Amérique, en tout cas pour la saison 1. Qu'est-ce qui a fait en fait que... Enfin, est-ce que ça a été ta rédac qui t'a dit « Alexis, il faut qu'on lance un truc » ou est-ce que c'est toi qui t'es dit « Attends, il y a des trucs qu'on peut passer, qu'on passe pas à l'écrit ». Enfin, quel a été le déclencheur finalement et la démarche dans ton lancement dans le podcast cette fois-ci?
En fait, quand je suis arrivé aux États-Unis, j'ai continué à faire de la radio, mais pour des radios régionales suisses, pour l'essentiel. J'ai aussi travaillé pour le service francophone de Deutsche Welle, qui est la radio allemande. Mais en fait, après être arrivé ici et après avoir fait un peu ces expériences de radio pendant peut-être les deux premières années, effectivement, je me suis vraiment focalisé sur la presse écrite. Et j'ai cherché à développer mes relations avec les journaux, les magazines français ou francophones. Mais j'ai quand même gardé dans un coin de ma tête l'idée de faire de l'audio. Je trouve qu'il y a plein d'histoires histoire dans le sens anglais de stories, qui se racontent mieux en audio, en fait, et qui captent plus l'attention, peut-être que si la même personne faisait l'objet d'un article écrit. Donc en fait, j'ai toujours eu dans un coin de ma tête l'idée de faire de l'audio. Voilà, moi, je suis aux États-Unis depuis 2007 maintenant. Toute cette période a correspondu avec vraiment le développement des podcasts ici,
ouais, l'adoption de masse,
est extrêmement riche, ouais, l'adoption de masse, des lancements de concepts, c'est toute la période Serial et d'autres podcasts qui ont vraiment été des pionniers et marquants. Et en fait, quand l'élection présidentielle de 2020 est arrivée, je me suis dit que c'était l'occasion de proposer un podcast à La Croix. Alors, j'ai eu de la chance parce que ça correspondait aussi à un moment où La Croix faisait le pari du podcast, avait décidé d'investir des moyens dans la réalisation de podcasts. Et donc, en fait, il y a eu une rencontre d'intérêt entre moi d'une part et la rédaction à Paris, qui avait déjà commencé à développer des podcasts sur son site. Mais là, c'était l'occasion effectivement de raconter une campagne présidentielle en prenant de la distance, comme le fait La Croix, en donnant la parole à des experts des États-Unis à travers donc un format où finalement qui permettait de raconter cet événement d'actualité de manière différente, quoi. Donc la première saison était assez classique, j'ai envie de dire, hein. C'était différents épisodes avec un expert que j'interviewais, un expert francophone ou anglophone. Et le tout était mélangé à des sons que j'avais recueillis moi-même sur le terrain, d'interviews que j'avais faites ou des gens que j'avais rencontrés, voilà.
On commence ce podcast dans une voiture de golf. Oui, vous avez bien entendu, une voiture de golf aux côtés d'Ed McGuinty. J'ai rencontré Ed en août dernier lors d'un reportage dans un endroit appelé The Villages, les villages, situés dans le cœur de la Floride. C'est la plus grande communauté de retraités aux États-Unis, et avec des dizaines de terrains de golf, tout le monde ici, très naturellement, se déplace en voiturette de golf. Il y a autre chose que tout le monde ou presque fait ici, c'est voter pour Donald Trump. Ce n'est pas le cas d'Ed, qui le fait savoir toutes les semaines en s'affichant sur le bord d'une route avec des pancartes contre le président. Cela lui vaut, comme j'ai pu m'en apercevoir lors de notre rencontre, d'être copieusement insulté par les automobilistes qui passent. Mais Ed McGuinty ne baisse pas les bras pour autant. Il me dit qu'il y a de plus en plus de démocrates qui le soutiennent lors de ces manifestations. Il y a 3 ans, me dit-il, je me prenais des bras d'honneur tout le temps. Maintenant, les démocrates qui passent m'encouragent. Je leur ai donné la confiance de sortir du bois pour montrer que nous ne sommes pas...
Et donc ça s'est fait comme ça. Mais j'ai eu de la chance que La Croix aussi, en même temps, ouais, cherche à
développer son empreinte.
À développer son offre. Oui, tout à fait. Ouais.
Tu dis que selon toi, et bon, c'est certainement vrai, il y a des histoires en fait qui vont se raconter mieux à l'audio qu'à l'écrit, et vice versa très certainement. Est-ce que tu pourrais m'en dire un peu plus? Quel type d'histoire? Enfin, je sais pas si c'est un truc auquel tu as réfléchi. Qu'est-ce qui fait en fait qu'une histoire va mieux passer à l'audio qu'à l'écrit et inversement?
Je pense que tout ce qui est entretien, par exemple, avec des acteurs importants de l'actualité ou des experts, ou moi, mon sentiment, c'était quand même que lire une interview, ça sera peut-être moins engageant que de l'écouter. Peut-être que je me trompe, mais en tout cas, moi, c'est comme ça que je ressens les choses, quoi. Pour moi, j'étais plus attentif ou plus engagé en écoutant quelqu'un répondre à des questions. Et aussi, véritablement, je pense que c'est... Il y a des avantages pour le lecteur ou l'auditeur, ou, mais aussi pour le journaliste. Mm-hmm. Il y a énormément d'avantages, finalement, à se lancer dans du podcast.
Comment
quoi.
Ça
je trouve que... moi, je suis plutôt quelqu'un de timide. J'ai toujours été timide. Et en fait, pour moi, le podcast, c'est une manière d'engager l'auditeur, de raconter des stories différemment, mm-hmm. mais aussi de rester un peu caché finalement pour le journaliste.
D'accord.
Pas montrer mon visage. Les gens entendent ma voix, donc ça peut-être que ça stimule leur imagination. Ils se demandent peut-être qui je suis, etc. Ils entendent des sons d'ambiance aussi, ça titille l'imagination. Et je trouve en fait, voilà, il y a à la fois des avantages pour la personne qui écoute, mais aussi ouais. pour la personne qui réalise le podcast, surtout quand la personne est un peu timide comme moi.
Ça me fait penser à quelque chose qu'on observe beaucoup. En fait, tu dis que tu es timide et que tu restes derrière le micro, mais le podcast, le média podcast est aussi vachement plus incarné finalement que le média écrit. Est-ce que du coup, ça a été un exercice un peu plus difficile pour toi?
Oui, non mais tu as raison, c'est vrai qu'il y a un peu un paradoxe. En même temps, moi je me suis senti plus à l'aise quoi, d'une certaine manière dans l'exercice. Je trouve que c'est un juste milieu entre effectivement engager le lecteur, l'emmener quelque part, faire un bout de voyage avec lui, mais en même temps voilà et en même temps ne pas être trop présent pour le narrateur en fait. Moi c'est aussi l'objectif de La Croix avec cette deuxième saison du podcast C'est l'Amérique, hein, consacré au fleuve Colorado. L'idée c'était vraiment que les auditeurs partent en voyage avec moi quoi. Et en fait voilà, moi j'étais en quelque sorte au service de l'auditeur. J'étais pas dans une démarche
d'enseignement.
Où j'étais d'enseignement ou même d'affirmation de moi quoi. J'étais vraiment là pour faire un voyage avec eux le long de ce fleuve américain.
Et ben justement, revenons-en à cette série qui m'a tenue en haleine toute l'été, ta série sur le fleuve Colorado en 8 épisodes, hein, c'est ça, c'était un par semaine ouais. en juillet-août. Est-ce que donc tu peux expliquer peut-être pour commencer aux auditeurs et auditrices de Génération Podcast de quoi il s'agit?
Alors l'idée est venue, en fait moi j'habite à New York, hein, comme tu l'as dit, et je suis loin du fleuve Colorado, qui est à l'autre bout du pays. Et en fait, moi, j'avais pas de relation très intime avec le fleuve. Je l'avais survolé, comme je le dis dans le podcast, je l'avais survolé quelques fois en avion, une fois en hélicoptère, en allant à Las Vegas ou dans l'ouest du pays. Et en fait, l'an dernier, comme beaucoup de journalistes, en fait, j'ai vu que le gouvernement fédéral américain avait déclaré une situation de pénurie pour le bassin inférieur du fleuve, qui correspond donc en gros aux états de l'Arizona, la Californie et du Nevada.
Moi, les repères que j'ai, c'est qu'en fait, quand je viens ici et que je vois la différence entre le sable, la pierre, le sable d'ici et de là-bas, je sais que l'eau, en fait, montait plus haut. C'est-à-dire que là, par exemple, on a du sable blanc, tout ça. L'eau montait jusque-là, à peu près, il y a 2 ans. Maintenant, ça, c'est cette végétation, c'est un peu comme de la mauvaise herbe ici. Là, ça pousse sans aucun souci. Et l'eau, en fait, voilà, elle montait au moins déjà jusque là-bas. Et c'est là où on voit que tout est parti. Alors, cette partie a plus d'endroits qu'à d'autres.
Mais ouais, parce que là, par exemple, là, on marche vraiment sur du sable, quoi.
Ça là, on est pas sur du tout sable. Sur ouais, ouais, comme, sur du sable. Et puis un sable un peu, comme on le voit dans Wetland Park, c'est un sable un peu. Je sais pas si. Est-ce qu'il est salé? Je pense pas, mais c'est un truc un peu particulier, brûlé par le soleil et tout ça. Et voilà, déjà avant, ça montait au moins jusque là, à certains endroits. Tout ça, avant, ouais. tout ça, là, ici, il y avait de l'eau. Voilà, là, il y avait de l'eau. Et on voit d'ailleurs qu'à certains endroits, tout est. Voilà, les algues sont dégueulasses. C'est en train de pourrir avec le soleil. Et là, comme il commence en plus à faire de plus en plus chaud, on va se retrouver.
On sent,
c'est une odeur qu'il y a 2 ans, 2 ans et demi, 3 ans, on ne sentait pas cette odeur de un peu de putréfaction, d'algues en train de pourrir. Quoi. Et on voit bien, là, voilà, aujourd'hui, là, avant, il y avait de l'eau ici. Ça, c'est jusque-là, au moins, jusque-là, il y avait de l'eau.
Et en fait, ça m'a interpellé. Le fleuve Colorado est un fleuve qui coule depuis des millénaires dans le sud-ouest américain, qui est une région qui est critique pour l'agriculture de tout le pays, qui est une région en plus qui est en plein boom économique et démographique. Il y a énormément de personnes qui vont s'installer dans le sud-ouest, notamment pendant la pandémie, mais ça c'était bien avant. Et en fait, ça m'a tout de suite intéressé. J'ai voulu explorer ce que ça signifiait, en fait, la disparition d'un fleuve. Et c'est une idée un peu absurde. C'était une idée un peu absurde pour moi. J'avais du mal à imaginer qu'un fleuve aussi grand, aussi puissant, hein, on le surnomme le Mighty Colorado, puisse disparaître.
Il prend sa source où, le Colorado ?
Dans la chaîne des Rocheuses, dans le Colorado. Ça commence sur le flanc ouest des Rocheuses, en fait, et il descend jusqu'au Mexique. Et il traverse plusieurs États sur son chemin. Et donc, j'ai voulu explorer qu'est-ce qui se passe tout simplement quand un fleuve disparaît. Et quand autant de personnes ou d'animaux ou de végétaux dépendent de ce fleuve. Et j'ai voulu le faire de manière constructive ou positive. Je ne voulais pas raconter l'histoire d'un fleuve qui disparaissait ou qui est en train de mourir. Je voulais raconter l'histoire d'un fleuve qui refuse de mourir parce que les gens qui sont autour de lui et qui sont à son chevet refusent de le voir mourir, quoi. Donc chaque épisode explore une réalité différente. C'était vraiment un road trip le long de ce bassin inférieur qui est le plus affecté par la sécheresse. Et donc avec les auditeurs, on est allé dans une réserve amérindienne, par exemple, dans des villes en plein boom comme Las Vegas qui dépendent de l'eau.
Je pense que c'est un épisode qui m'a beaucoup plu d'ailleurs, Las Vegas.
Ouais.
Il m'a vachement surprise, en fait, tu vois.
Ouais.
C'est vrai que Las Vegas, on la connaît comme étant la ville de tous les excès. Hein, finalement, ce qui a été mis en place pour justement préserver l'eau...
Mais en poursuivant mon enquête sur le fleuve Colorado, j'ai découvert une facette moins connue de Las Vegas, celle d'une municipalité qui fait tout pour économiser son eau. Comment ? En s'attaquant paradoxalement à l'un des symboles de l'esthétique et de l'opulence, ses pelouses.
Hey Cameron, hey.
This is Cameron. Cameron, this is Alex.
Hey, nice to meet you. Thank you for
7h du matin, j'ai rendez-vous en banlieue de Las Vegas. Je rencontre Cameron Donnarumma, rien à voir avec le gardien du Paris Saint-Germain, Gianluigi Donnarumma. Il a à peine 30 ans et travaille depuis quelques années pour la police de l'eau de Las Vegas. Son boulot, c'est de faire des rondes dans les quartiers de la ville et de sa banlieue à la recherche de la moindre goutte d'eau gaspillée. Il le fait dans une voiture équipée de gyrophares sur laquelle il est écrit en gros « Water Patrol, Protect and Conserve », « Patrouille de l'eau, protéger et conserver ». Et oui, il lui arrive aussi de les allumer, ces gyrophares, pour rappeler qu'il n'est pas là pour rigoler. Cameron Donnarumma. J'aime faire ce travail parce que j'aime vivre dans cet endroit. J'ai vécu ici pendant environ 20 ans, donc la majeure partie de ma vie. De toute évidence, la situation de l'eau devient grave. Et j'ai l'impression que mon travail aide tout le monde dans cette région.
Du coup, donc, c'est toi en fait qui a eu cette idée, qui a eu cette envie d'aller explorer. Tu fais justement souvent toi des reportages de terrain aux États-Unis pour d'autres médias, mais à l'audio, c'était une première, non ?
Ouais, c'était une première de faire un reportage aussi long. J'ai passé 2 semaines le long du fleuve et un peu autour de ses affluents, donc un peu plus loin du fleuve principal. Et puis après quelques jours en Utah pour une conférence sur l'avenir du fleuve qui a lieu au même. Mais c'était effectivement la première fois et je dois dire que quand on part en reportage comme ça, on fait des rencontres super. Là, dans le cas du Colorado, il traverse vraiment, je pense, l'une des plus belles régions des États-Unis. Donc, c'était vraiment époustouflant. Et des moments où j'avais du mal à garder mes yeux sur la route, quoi, en traversant des paysages superbes. Mais effectivement, c'était la première fois que je partais aussi longtemps. Et quand, en fait, le gouvernement américain, cette année, donc un an après la première déclaration de pénurie d'eau, a annoncé que la pénurie s'était aggravée, J'ai eu des larmes aux yeux, en fait. J'étais vraiment ému. Et c'était bien sûr complètement différent de l'année d'avant où j'avais pas vraiment de relation avec le fleuve, mais juste en passant deux semaines et puis plusieurs mois à préparer le podcast, je pense que je pouvais comprendre à quel point la disparition de ce fleuve pouvait toucher, affecter les gens dans la chair, dans leur chair, quoi. Les gens qui sont là-bas et qui le connaissent encore mieux que moi, quoi.
Tu parles justement de ta préparation plusieurs mois. On a l'impression aussi qu'il y a des gens que tu as rencontrés au fur et à mesure de ton voyage. Quelle est finalement la part de préparation? Est-ce que c'était les thèmes? Est-ce que c'était trouver les gens? Est-ce que c'était trouver les organisations, les histoires? Enfin, comment est-ce que tu t'es organisé finalement en amont?
En fait, je savais les thèmes que je voulais aborder. Ce qui était difficile, c'est d'identifier les endroits et surtout de faire en sorte que les gens que je voulais rencontrer soient disponibles quand je passais... quand je faisais escale dans les endroits où je voulais aller, quoi. Donc c'est un peu un défi. J'ai eu énormément de chance dans le sens où tous les gens que je voulais rencontrer étaient disponibles, étaient vraiment volontaires pour en parler. Et donc ça, j'ai eu beaucoup de chance là-dessus. J'ai pu rencontrer à peu près toutes les personnes à qui j'ai voulu parler. Après, au-delà de ce noyau dur de gens que je voulais rencontrer, il y avait, j'ai fait d'autres rencontres sur place. C'est comme tout reportage, en fait, on part avec une base. En tout cas, dans mon cas, on part avec une base. Et puis après, les gens nous recommandent de parler à d'autres personnes. Et donc, de fil en aiguille, on rencontre des gens comme ça, quoi.
Est-ce qu'il y a justement, des thèmes que tu n'avais pas du tout prévu finalement d'aborder en amont, qu'une fois sur place, tu te dis c'est absolument nécessaire?
J'ai eu quelques endroits où j'aurais aimé aller et finalement j'ai pas pu y aller faute de temps. J'aurais aimé passer plus de temps au Mexique, qui est le dernier épisode de la série, où il y a énormément d'associations qui essayent de reconnecter le fleuve à la mer de Cortés, donc au golfe de Californie, puisque contrairement à ce qu'on voit sur les cartes ou les plans, le fleuve ne coule plus jusqu'à la mer aujourd'hui. Ouais.
On s'habitue presque au bruit des tourniquets métalliques. Chaque son qu'on entend représente une personne qui passe la frontière entre les États-Unis et le Mexique. Je suis au poste frontière de Calexico, côté États-Unis. C'est l'un des endroits où l'on peut entrer au Mexique à pied. À l'intérieur du bâtiment, on emprunte un long couloir, passé un contrôle de sécurité et les fameux tourniquets, on arrive dans la ville mexicaine de Mexicali. Mexicali, c'est la ville frontière par excellence. Un mélange de langues, de cultures, de traditions, à l'ombre du grand mur barbelé qui sépare les États-Unis du Mexique. Je vois des mots d'espagnol se mêler à des logos d'entreprises américaines. Je suis dans une ruche de piétons, de vendeurs de rues et de voitures qui évoluent dans un gros brouhaha. Si je suis aujourd'hui au Mexique, c'est pour visiter un endroit très spécial, le delta du fleuve Colorado. Je dois le reconnaître, j'avais vraiment hâte de voir cet endroit. Il s'agit d'une zone de 8000 km² où le fleuve se jette dans la mer de Cortés, qui s'ouvre sur l'océan Pacifique. J'ai dit « se jette », mais c'est plutôt « se jeter », car le Colorado fait partie des fleuves dans le monde qui n'atteignent plus la mer ou l'océan de manière continue. C'est la conséquence de son assèchement, bien sûr, mais aussi d'une décision politique et économique, celle de rediriger son eau vers les champs et les villes du nord du pays, grâce au barrage Morelos, construit à la frontière.
Donc j'aurais aimé passer plus de temps là-bas. J'aurais aimé passer plus de temps dans les réserves amérindiennes. J'ai passé une journée dans une réserve qui était le long de mon itinéraire, mais j'aurais aimé aller plus parler à plus de leaders amérindiens, mais bon, peut-être pour la saison 2, ou 3, ouais. La suite en tout cas, peut-être. Mais je dois dire que malgré tout, le sujet de l'assèchement du fleuve est quand même assez bien balisé. Il y a eu déjà certains articles même beaucoup d'articles qui ont été faits sur la question. Et ça m'a aidé à constituer mon itinéraire. Il y a un autre truc que j'aurais aimé beaucoup faire, mais ça, à faute de moyens et de temps, ça n'a pas été possible. Mm-hmm. C'est me concentrer sur sur le bassin supérieur, ouais. Qui est le bassin où toi, tu te trouves, ouais. Donc dans le Colorado et les États qui sont autour. Et ça, c'est des problématiques qui sont encore encore différentes, ouais. Mais bon, voilà, ça sera pour on peut pas tout faire, malheureusement.
Alors justement, tu as mentionné une potentielle saison 2 au Colorado, saison 3 à Cécile Amérique.
Je me suis avancé.
Coucou la Croix. Est-ce que justement, en fait, voilà, t'envisages, enfin, t'aimerais aller, je sais qu'il n'y a peut-être rien de signé, mais comment est-ce que t'envisages la suite? Tu as l'air de dire, effectivement, enfin voilà, l'histoire, elle n'est pas finie. C'est une histoire qui continue, quoi.
Bah déjà, les problèmes du fleuve Colorado ne vont pas s'arrêter, mm-hmm. malheureusement. C'est des problèmes de long terme, etc. Après, pour une potentielle saison suivante, il n'y a encore rien de fait, donc je ne vais pas m'avancer. Mais bien sûr, la thématique environnementale m'intéresse, la question de l'avenir des fleuves, de l'eau, qui est un grand problème, une grande question aux États-Unis m'intéresse. Mm-hmm. Il y a aussi d'autres sujets qui sont liés à l'environnement, mais qui sont différents aussi, qui moi m'intéressent. Je pense qu'il y a énormément à faire autour de l'avenir de la démocratie américaine, par exemple, et ouais. la question de l'accès au droit de vote, de l'éducation civique, mm. de... l'accès à l'éducation tout court, les médias, enfin mmh. bref, il y a énormément de sujets qui méritent d'être explorés. Et donc ça peut être peut-être l'objet de la saison suivante. Ouais. Ou peut-être qu'on continuera sur le feu au Colorado, je sais pas, on va voir, on va en parler.
Enfin, tu disais qu'il y a eu beaucoup de littérature qui a été écrite sur l'évolution de la situation du fleuve Colorado, que ça a pu t'aider justement un peu à cadrer ton sujet aussi. Peut-être que je dis des bêtises, mais il y a beaucoup de choses qui ont peut-être été faites aux États-Unis en anglais, mais finalement peut-être pas tant que ça en français. Je n'ai pas regardé toutes les autres langues. Pourquoi c'était important pour toi d'aller raconter cette histoire en fait en français à des gens qui ne vivent pas, qui sont en tout cas pas directement, tu vois, touchés par l'évolution de ce fleuve?
Ben, pour moi, c'est vraiment une histoire universelle, quoi. Ouais. C'est une histoire, et surtout, on le voit depuis la canicule qu'a connue la France, enfin les vagues de canicule ouais. qu'a connue la France cet été, avec des articles sur la situation de la Loire, du Rhin ou d'autres cours d'eau. Je pense que les Français et même d'autres peuples ont énormément à apprendre de ce qui se passe. Ouais. Ce qui se passe dans le sud-ouest des États-Unis autour du fleuve Colorado. Mmh. Les questions de comment on fait quand on est une municipalité qui grandit, mmh. Qui cherche à se développer, mais qu'on manque d'eau. Ça, c'est une question universelle pour moi. Qu'est-ce qu'on fait face à la possible marchandisation de l'eau? Mmh. Je suis allé par exemple dans une commune, une toute petite commune de 300 habitants en Arizona qui s'appelle Cibola, mmh. qui se trouve à côté du fleuve Colorado. Et en fait, il y a des entreprises, des sociétés financières qui essaient de racheter et d'exporter l'eau qui passe par Cibola. Mmh. Vers d'autres endroits qui, soi-disant, en ont plus besoin. Ouais. Donc, qu'est-ce qu'on fait face à ces situations, mmh. quoi. Et ça, ce sont des thématiques qui concernent les États-Unis, mais qui peuvent très bien concerner d'autres parties du monde, quoi. Et il y a un dernier truc peut-être intéressant aussi, Anne Fleur, c'est... ce que j'ai pu mesurer, en fait, en allant sur place, c'est à quel point... Bah, le fleuve faisait partie de l'identité des gens. C'est un endroit où on vient pour s'aérer la tête, pour faire des pique-niques, pour faire du kayak. Mm. Le fleuve apparaît dans les photos de famille, sans compter les activités économiques qui dépendent du fleuve. Donc, je pense que... ce que fait la disparition d'un fleuve à l'identité des gens, Ça touche n'importe quel peuple de la planète, à mon avis.
Est-ce que tu avais une certaine conscience écologique avant de te lancer dans ce projet-là ? Est-ce que ça a évolué ?
Ouais, j'avais une conscience pas très développée, mais voilà, je faisais des gestes verts. Et après, effectivement, en revenant, je peux pas dire que j'ai changé mes habitudes, mais je suis devenu beaucoup plus sensible à la thématique de l'eau et de l'accès à l'eau et de ce qu'on fait de l'eau, en fait, tout simplement.
Ouais.
Il y a un sujet intéressant en ce moment aux États-Unis, c'est la modernisation des infrastructures de l'eau. Mmh. Et on le voit que dans certaines villes américaines, la vétusté de ces infrastructures pose problème.
Actuellement, dans le centre des États-Unis, il y a plein de gens qui n'ont plus d'eau même.
Tout à fait, ouais. À Jackson, Mississippi, ils n'ont plus d'eau pendant plusieurs semaines. Maintenant, l'eau courante est revenue, mais elle n'est pas encore potable. Ouais. Et donc, en fait, je ne peux pas dire que ça a vraiment changé ma conscience écologique, que ça l'a renforcée. Mais par contre, ça m'a donné envie, en tant que journaliste, d'écrire plus sur la question de l'eau et de l'adéquation de nos infrastructures, en tout cas aux États-Unis, quoi, où l'accès à l'eau potable ne va pas de soi.
Ouais.
Et ça, c'est quelque chose que... on a peut-être du mal à comprendre qu'on n'habite pas ici, quoi. Et qu'on voit les États-Unis comme un pays puissant, comme une grande puissance économique, mais en même temps, il y a une capitale d'un État comme le Mississippi, hein, la ville de Jackson, qui n'a pas d'eau potable.
C'est ça, on dirait de la boue quand les gens tournent. Exactement. Tu vois ça à la télé, c'est flippant de se dire qu'on vit dans le même pays, en fait. Enfin, tu te dis, bon, c'est...
Exactement.
C'est ahurissant. Quelles sont les retombées, du coup, de ton podcast, donc cette saison 2 sur le fleuve Colorado ? Est-ce que, donc tu disais, tu t'espères proposer des outils, peut-être indirectement, pour pouvoir adapter finalement dans la vie de francophones ou francophiles qui écouteraient le podcast, que ce soit au niveau de communautés de communes, de municipalités, au niveau individuel. Je ne veux pas mettre de mots dans ta bouche, c'est pourtant ce que je suis en train de faire, donc je me tais, je te laisse répondre.
Ouais, écoute, non, j'ai eu de très bons retours.
Ouais.
Le sujet était moins fédérateur, je pense, que la première saison qui portait sur l'élection présidentielle. Il y avait un intérêt sur dans quelle direction les États-Unis allaient aller. Les retours que j'ai eus étaient vraiment très bons. Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit qu'ils avaient découvert ce fleuve à cette occasion, qu'ils le voyaient d'une manière différente. J'ai eu beaucoup de retours sur... Tu parlais de l'épisode sur Las Vegas. Mm-hmm. Ça, c'est peut-être celui qui a fait le plus réagir, parce que dans l'épisode, on parle de toutes les stratégies que la ville a mises en place pour économiser l'eau. Un peu contrainte et forcée, mais en fait, Vegas a été une pionnière dans la conservation de l'eau. Donc ça, c'est assez intéressant. Et puis, beaucoup de réactions sur l'avant-dernier épisode sur les Amérindiens et les injustices dont sont victimes les tribus amérindiennes en essayant d'avoir simplement leur mot à dire sur l'avenir du fleuve.
Avec la montée en puissance du thème de la justice raciale et environnementale ces dernières années, les défis que rencontrent les peuples indigènes ont pris une dimension nouvelle. Le Covid a accéléré cette prise de conscience. La probabilité d'être équipé en plomberie est 19 fois inférieure chez les foyers amérindiens que chez les blancs. Concrètement, cela signifie qu'ils n'ont pas accès à l'eau chaude ou froide ou qu'ils n'ont pas de douche ou de toilette au sein de leur domicile. À cause de ce manque d'équipement de base, certaines tribus ont enregistré des taux d'infection au Covid plus élevés que la ville de New York, pourtant l'un des foyers de la pandémie. Toutes les tribus ne sont pas logées à la même enseigne. Certaines ont la chance de pouvoir tirer des revenus de leur eau. Le niveau de développement de leur infrastructure n'est pas le même non plus. Leurs besoins sont plus ou moins importants, que ce soit pour leur agriculture ou pour soutenir la croissance de leur population. En tout cas, la reconnaissance de leurs droits d'eau leur donnerait la liberté de déterminer comment elles veulent utiliser cette eau, y compris la louer pour générer des revenus.
Donc voilà, je pense que c'est un sujet qui a souvent été, et peut-être en France, traité de manière superficielle. Effectivement, on voit ces images spectaculaires des réservoirs d'eau le long du fleuve qui sont en train de baisser. C'est tout de suite, c'est effectivement, c'est une situation inquiétante et elle est inquiétante. Hein. Mmh. Il y a aucun doute là-dessus. Mais je pense qu'à travers ce podcast, les gens qui l'ont écouté ont pu avoir une compréhension plus fine de la situation sur place, de voir que tout espoir n'est pas perdu, même si ça va être difficile. Et ils ont pu, en tout cas, je l'espère, avoir une compréhension intime, quoi, de ce cours d'eau.
En tout cas, bravo pour ce podcast.
Merci.
Qui fait voyager, qui fait réfléchir, qui sensibilise et qui fait découvrir aussi toute une problématique, tout un coin qu'on ne connaît pas toujours très bien.
Donc, merci à toi.
Bravo et merci. Alexis, est-ce que tu écoutes encore des podcasts ?
Oui, mais pas beaucoup en fait. Ouais.
Les journalistes disent tous ça.
Il y en a tellement. Non, enfin, j'écoute beaucoup de des podcasts d'actu.
Ouais. Français, américain, les deux ?
Américain, ouais. J'écoute très peu finalement, ou voire pas du tout de podcasts français.
Ouais.
Et ça, c'est une erreur, c'est pas intentionnel du tout, mm-hmm. mais. C'est juste que j'ai...
Des formations professionnelles, tu parles des États-Unis, donc t'écoutes les États-Unis, non ?
Ouais, j'écoute The Daily, qui est, je trouve, un podcast exceptionnel. Enfin, voilà, c'est vraiment un très bon podcast et dont devraient s'inspirer les médias, médias à l'étranger. Enfin, ils le font déjà.
Ils le font,
ouais. Donc ça, The Daily, c'est un peu le rituel du matin.
Ouais.
Et puis après, des podcasts de conversation. J'aime bien Pod Save America, mm-hmm. qui est le podcast animé par des anciens de l'administration Obama. Je trouve qu'ils ont... c'est assez orienté. Hein, ils sont tous démocrates, etc. Mais ils ont des analyses assez intéressantes de la situation politique. Il m'arrive aussi d'écouter des podcasts de l'autre camp et je pense que c'est important aussi pour se faire une idée de ce qui se passe dans le Trump world, mm-hmm. comme on dit. Donc les podcasts de Steve Bannon, les podcasts sur des thématiques précises, sur les armes à feu, par exemple.
D'accord.
Ça m'arrive plus ponctuellement, mais ça m'arrive de temps en temps. Ouais, ouais.
D'accord. C'est quoi ton dernier coup de cœur, podcast, même un épisode, une histoire qui t'a vraiment marqué ?
J'ai réécouté un épisode d'une émission de radio, mm-hmm. qui en podcast maintenant, il y a pas très longtemps, qui est l'émission, c'est This American Life.
Ah oui,
qui est une référence. Ouais. Ouais. Et en fait, c'était un épisode sur une femme qui est agent de sécurité dans les aéroports.
Mm-hmm.
Elle appartenait à une agence, à une boîte de sécurité privée, etc. Elle était victime de tout un tas de discriminations. Ses collègues masculins ne la respectaient pas, etc. Et en fait, plutôt que de démissionner, elle a décidé de s'accrocher et de devenir responsable de la formation au sein de cette boîte. Et donc, elle raconte en fait son parcours et comment elle a décidé de changer la culture de l'entreprise de l'intérieur, en fait. Récemment, c'est peut-être le podcast qui m'a le plus... C'était pas un épisode récent, mais je l'ai écouté récemment.
Ouais.
Et ça, j'ai beaucoup aimé.
En même temps, This American Life... ça a été c'est quoi, en 2002, 2003 ou même avant?
Il y a plusieurs centaines
d'épisodes.
Ouais. J'ai commencé à l'écouter en arrivant aux États-Unis.
2007,
quoi, donc.
Je m'écoute au montage et je me corrige. This American Life date de 1995. Donc, il y a quand même de quoi piocher.
Absolument, ouais. Je me souviens de l'un des premiers épisodes que j'ai écouté. C'était en 2009,
ouais.
Et c'était un épisode, donc on était en pleine crise économique aux États-Unis, et c'était un épisode brosser un peu le portrait de la situation à l'époque, à New York, il y avait beaucoup de chantiers qui s'étaient complètement immobilisés avec la crise économique. Donc il y avait des tours qui étaient en construction ou des tours qui venaient d'être construites et qui cherchaient preneurs. Et en fait, This American Life a fait un épisode qui était vraiment super sur la vie dans une tour qui était quasiment vide, en fait.
Ah ouais.
Parce qu'ils avaient dû, des gens avaient dû partir ou ils avaient du mal à trouver des locataires, en fait. Mm-hmm. Et donc ça, c'était... Ça m'a vraiment, vraiment intéressé au point où je m'en souviens encore
ouais,
aujourd'hui.
Plus de 10 ans après.
Ouais. Donc, il y avait quelques personnes qui habitaient dans ce bâtiment et ils se voyaient de temps en temps. Parfois, ils entendaient quelqu'un d'autre marcher dans les couloirs sans se voir, etc. Mais donc, c'était une ambiance un peu particulière quoi, dans ces grandes... dans ces grandes tours qui étaient quasiment, pour certaines, quasiment vides. Quoi.
Très bien. Eh ben, écoute, merci beaucoup, Alexis. Est-ce
merci
que il y a une question que je ne t'ai pas posée, un truc que tu aurais voulu mentionner, auquel je n'ai pas pensé, je ne t'ai pas donné l'opportunité?
Je pense que j'aimerais en profiter pour remercier toute l'équipe de La Croix et aussi French Morning et l'Université Columbia qui ont été partenaires de ce podcast. Et l'équipe de La Croix en particulier, parce qu'il y a beaucoup de petites mains en fait qui ont participé à la réalisation, à la production de ce podcast et donc voilà, je voulais les saluer ici. Et ça, c'est l'une des choses, pour boucler un peu la boucle en fait, c'est l'une des choses que j'ai apprises lors de mes premières expériences en radio, dans une radio locale. Donc à fréquence protestante, quand j'ai fait mes débuts, c'est l'importance de l'équipe, quoi.
T'entends une voix, mais il y a beaucoup de monde derrière.
Exactement, on entend une voix, il y a beaucoup de gens derrière, et voilà, c'est à chaque fois un peu un petit miracle qu'on arrive à produire quelque chose, que ce soit un podcast ou un journal ou. Et ça serait pas possible, bien sûr, sans une super équipe derrière.
Et pour complètement boucler cette boucle, justement, est-ce qu'il y a un conseil, un truc que tu as appris, justement, dans tes tout débuts derrière un micro, que tu appliques encore aujourd'hui ?
L'un de mes souvenirs de la radio où j'ai commencé, à fréquence protestante, c'est qu'il y avait une pancarte, en fait, dans le studio, avec un petit smiley, il y avait un message qui disait « Souriez, ça s'entend ».
C'est un des premiers conseils qu'on m'a donné aussi en radio.
Ouais, mais alors j'ai envie de te dire, ouais, mais Anne-Fleur, ça s'entend, toi, ton sourire s'entend au micro, quoi. Et quand j'entends tes podcasts, en fait, je pense parfois à ça aussi, parce que on sent que tu souris, et ça, c'est quelque chose que je ne fais pas assez, certainement, dans mes podcasts à moi. Mais ça, je me souviens toujours et ça fait partie des leçons que j'ai tirées de cette expérience.
Ouais, des trucs qui t'ont suivi longtemps.
Ouais, souriez, ça s'entend.
Magnifique. Très belle conclusion.
C'est beau.
Drop mic. Eh bien, écoute, merci beaucoup, Alexis.
Super, merci à toi, Anne-Fleur.
Et voilà, vous l'aurez compris, c'est terminé pour aujourd'hui. Je tiens à adresser un immense merci à Alexis Buisson pour cet échange que j'ai trouvé super intéressant. Et je vous encourage très sincèrement à aller découvrir ses podcasts et plus particulièrement la saison 2 de C'est ça l'Amérique. Je vous mets le lien dans la description de cet épisode. Un grand merci aussi à vous, bien entendu, de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Si cet épisode vous a plu, parlez-en autour de vous, partagez-le avec vos amis, vos potes, vos collègues. Ça m'aide énormément à faire connaître mon travail et c'est important quand on est indépendant. Allez, sur ce, je vous souhaite une très belle semaine et je vous retrouve dans quelques jours pour une nouvelle histoire de podcast.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.